Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Élite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut vous aider à transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui sur le podcast, on parle de social commerce et de la tendance des consommateurs sur les médias sociaux. On termine l'entretien avec une conversation sur le emailing avec Tony Tran, directeur du département chez Pure Commerce. Bonne écoute! Le Global Web Index, un énorme cabinet de recherche, a sorti récemment son Social Report de 2022. Ce rapport est le bilan de leur étude menée sur plus de 700 000 personnes âgées de 16 à 64 ans, établies sur plusieurs continents. Et voici quelques informations qu'il ne fallait pas manquer de ce rapport. Le temps passé sur les médias sociaux. Depuis les 5 dernières années, JWI indique que le temps passé sur les réseaux sociaux a été très mouvementé, avec parfois des augmentations de 40 minutes par jour en moyenne d'une année à l'autre. Et beaucoup s'explique par les restrictions liées à la COVID qui disparaissent peu à peu, et JWI indique qu'au niveau mondial, sans compter le Moyen-Orient et l'Afrique, nous sommes revenus à la même consommation qu'il y a 3 ans. Donc, nous vivons une baisse du temps passé sur les réseaux et ça semble être une constante. Pour information, le temps moyen est de 2h26 dans le monde. Et en 2021, le Canada est à 1h53, la France à 1h46 et la Belgique à 1h40. Les plus gros consommateurs se trouvent principalement en Amérique du Sud avec le Brésil pour 3h46 et l'Argentine avec 3h25. L'Asie est également très présente et c'est d'ailleurs les Philippines qui prennent la palme d'or avec 4h08 en 2021. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez déjà que les marchés mentionnés plus haut sont en très forte croissance. On peut donc dire que le temps passé sur les médias sociaux en accélération est une répercussion normale pour ces pays. Dans son étude, JWI pose la question « Quelles sont les trois raisons évoquées pour utiliser chaque plateforme, à savoir Pinterest, Facebook et Messenger, Instagram ainsi que TikTok ?» Voici quelques raisons évoquées. Envoyer des messages, publier du contenu, suivre ou trouver des informations concernant un produit ou une marque, ou trouver du contenu divertissant. Maintenant, voici le réseau social qui sort en premier pour chacune de ces raisons. Envoyer des messages, Facebook Messenger. Publier du contenu, Instagram. Suivre ou trouver des informations concernant un produit ou une marque, Pinterest. Trouver du contenu divertissant, TikTok. C'est fascinant parce que Pinterest apparaît clairement comme un réseau social avancé dans le parcours d'achat d'un consommateur. On est déjà dans un état de recherche contrairement aux autres médias sociaux. Et ce n'est pas pour rien que la plateforme a lancé en test aux États-Unis la fonctionnalité de payer directement à même la plateforme. JWI nous indique quand même que 54% des pinners qui ont dit utiliser Pinterest pour la recherche de produits utilisent Instagram exactement pour la même raison. On en conclut surtout que la grande majorité des utilisateurs de Pinterest sont dans une optique d'achat et de recherche quand ils sont sur la plateforme. Parlons maintenant du social commerce. La publicité sur les médias sociaux ne sera plus un petit joueur dans le domaine des communications. En effet, le budget publicitaire de ce marché va bientôt dépasser un vieux média bien connu, la télévision. JWI s'appuie sur une étude externe de Zenith Agency du groupe Publicis qui prédit que les dépenses publicitaires en TV seront de 174 milliards contre 177 milliards pour le domaine des médias sociaux en 2022. On doit ce dépassement à l'émergence sans fin de TikTok, mais aussi d'Instagram. Zenith Agency estime qu'en 2024, la publicité sur les médias sociaux sera le premier pôle de dépenses publicitaires, même devant la publicité dans les moteurs de recherche avec 26,5% des dépenses contre 22,5%. Ce que ça nous dit, social commerce is leading the future of online shopping. Et pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont largement devant quand il s'agit de découvrir des marques et des produits. On parle même de 64% des interviewés dans l'étude. Plusieurs éléments y contribuent, mais un excellent facteur ou une conséquence directe vient notamment de l'émergence folle des live streaming. Des lives pendant lesquels des influenceurs ou des marques parlent de produits et font des démonstrations par la suite devant la caméra. Mais au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette étude de GWI? Eh bien que la fin relative de l'épidémie, dans le sens où on lève les restrictions, marque la fin d'une période où la consommation des réseaux sociaux a augmenté de manière artificielle. Des marchés établis comme l'Amérique du Nord et l'Europe ont trouvé une certaine stagnation. Mais on a également vu que certains continents comprenant des pays émergents sont très consommateurs et restent des marchés à forte croissance d'Internet dans son ensemble. Malgré ça, les réseaux sociaux sont un aimant à attention et c'est pourquoi on note une explosion des dépenses publicitaires. L'étude nous montre qu'on a quasiment un réseau social pour chaque besoin. Échanger, publier, créer du contenu, être à jour sur l'information ou suivre et découvrir des produits. Une ultra-segmentation qui permet aux marques de choisir plus facilement le réseau où elles doivent se rendre pour remplir leur objectif. Ce qui explique aussi pourquoi les réseaux convergent vers le même objectif, le e-commerce. Si vous investissez en publicité pour votre boutique en ligne et que parallèlement à ces efforts, vous ne possédez pas de stratégie emailing robuste, croyez-moi, vous laissez beaucoup d'argent sur la table. Chez Pure Commerce, on a fait le calcul et en moyenne, le marketing par email représente plus de 30% des revenus des clients travaillant avec nous, mais également des marques qu'on possède. Aujourd'hui, on s'est donc dit qu'il était important d'expliquer la fondation d'une bonne stratégie emailing pour tout e-commerçant. Et notre directeur à l'interne, Tony Trent, se fera donc un plaisir de vous expliquer la stratégie qu'on met habituellement en place. Soyez attentifs, l'entretien sera très technique. Bonne écoute! Mon nom est Antoine Gagné et je suis très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode du balado Commerce Élite, présenté par l'agence marketing Pure Commerce. À chaque semaine, on s'entretiendra avec un acteur influent du commerce en ligne qui nous présentera une approche tactique que vous pourrez rapidement mettre en place avec votre entreprise. Et cette semaine, c'est Tony Tran, directeur du département emailing chez Pure Commerce, qui est avec nous pour discuter. Tony, bienvenue sur le podcast Commerce Élite.
Bonjour Antoine, bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être ici pour vous parler de emailing.
Et exactement, Tony, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de emailing, mais spécifiquement pour commerce en ligne. Et avant de rentrer dans les stratégies qu'on va pouvoir proposer à notre audience, peux-tu nous expliquer pour quelles raisons, selon toi, Tony, le emailing, c'est autant important pour un commerce en ligne?
Certainement. Au fond, j'aime voir un site web, un commerce en ligne, comme un seau où qu'on amène de l'eau tout le temps. Puis malheureusement, ce seau-là va être troué. Donc, il y a toujours une perte d'eau, peu importe le trafic, le nombre de trafic qu'on amène à ce seau-là. Et j'identifie trois principales sources de trafic. Les principales étant tout ce qui est payant, Facebook, Google Ads et tout. Il y a aussi l'organique. Et il y a finalement le troisième qui est mon favori ici, c'est le trafic recyclé, on va dire, par le mailing. Donc, à force d'amener du trafic, on essaie de recycler les pertes avec des pop-up et entre autres, pour ramener le trafic à travers des campagnes dans le seau d'eau et au fil du temps, au fond, tirer le maximum de cet apport d'eau-là. Mais pourquoi c'est si important de nos jours? Puis on en entend parler beaucoup ces temps-ci, surtout avec les changements radicaux chez Apple, chez Facebook et compagnie, c'est que le email marketing, c'est qu'est-ce qu'on appelle le « own marketing ». C'est que c'est une liste qui nous appartient à chacun d'entre nous, à nos clients et tout, qu'on peut pas jamais perdre parce que c'est on a directement accès à pour parler à nos clients. Fait que ça, il y a le premier point. Deuxième point, c'est difficile et ça coûte très cher d'acquérir des nouveaux clients, mais c'est facile de réutiliser les mêmes clients, on va dire, et de les monétiser davantage. Fait qu'on a tout intérêt avec le mailing, qu'on va voir plus loin, j'imagine, là, dans les discussions, de voir comment qu'on peut venir monétiser au maximum. Et le dernier point, je pense que qu'est-ce qui est le plus intéressant dans tout ça pour moi, c'est qu'on peut automatiser ça, une portion du moins, qui est automatisée. Donc, une fois que le travail est fait, on fait juste le réutiliser à long terme, donc on gagne beaucoup en efficacité.
C'est tellement vrai parce que on amène tellement de trafic des fois sur un site internet et on oublie que ce trafic-là avec des intégrations marketing qui sont quasiment gratuites, hein, c'est ça le emailing, c'est du trafic qu'on ne paye pas à part peut-être les logiciels de emailing, on est capable d'aller rechercher le trafic qui n'a pas converti. Donc ça, je pense que c'est important pour notre audience aujourd'hui de bien comprendre tout ça. Maintenant, Tony, on va parler de cas pratiques en ce qui concerne le emailing aujourd'hui et pour bien situer nos auditeurs, on va parler d'un client. Et peux-tu parler brièvement quelle est cette entreprise et quel type de produit cette entreprise offre?
Oui, au fond, c'est une entreprise, une belle entreprise canadienne, fièrement canadienne, dans les industries de la chaussure. Donc, elle va vendre des souliers, des bottes et des sandales pour suivre vraiment les saisons, surtout au Québec où on a beaucoup de changements de saison ici. Et donc, elle a beaucoup de SKU de produits. Et aussi, tu sais, c'est un prix qui est abordable, mais il y a un peu plus high-end, donc entre 50 à 250, 300 $ la paire de souliers. Donc, elle s'adresse vraiment à une audience générale que tout le monde a besoin de souliers. Donc, c'est intéressant parce que elle rejoint tout le monde.
Bon, fantastique. Donc, on voit un petit peu le type de client qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Une entreprise qui vend en ligne, on comprend à peu près le range de prix, pardonnez-moi, on va dire entre 50 et 200, 250 $. Entreprise qui s'adresse à la masse. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre maintenant un petit peu quel type de stratégie globalement pour un commerce de ce type on va intégrer chez Pure Commerce au niveau du emailing. Brièvement, à quoi que ça ressemble?
Parfait. Une chose importante à comprendre, c'est que quand on va avoir des nouveaux clients ou qu'on regarde les comptes de nos clients actuels puis qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, c'est important de s'assurer que les stratégies sont adaptées à leurs besoins. Puis dans ce cas-ci, cette entreprise-ci, c'est un client qui a déjà du trafic. Donc, c'est pas un nouveau commerce en ligne qui commence, fait ses débuts. Donc, il y a déjà une source de trafic récurrente, soit par payant ou soit qu'ils ont bâti à travers le temps. Ça, c'est super important pour le mailing dans le sens qu'on veut avoir du trafic parce qu'on peut pas recycler si on n'a pas de trafic. Il faut avoir une base déjà. Deuxièmement, c'est que c'est super important d'avoir des produits qui sont récurrents. Oui, c'est possible de faire du mailing dans des industries où que les produits sont pas récurrents, oui, certainement, mais c'est beaucoup plus efficace quand c'est récurrent parce que le but, c'est de monétiser davantage et plusieurs fois à haute fréquence les achats de nos clients existants, justement. Et on parle aussi de changements qui suivent les saisons. Donc, si on a une gamme de produits, on va dire juste 5 produits qui changent jamais, c'est super difficile de monétiser ça. Mais si on est les produits qui suivent les saisons, qui suivent les événements, qui suivent la mode, exemple. Donc là, on a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de storytelling qui suit derrière ça, qui rend encore plus le mailing efficace dans un sens. Donc, tu m'as posé la question, au fond, c'est quoi la stratégie de base qu'on met en place souvent pour ce type de client-là? Bien entendu, il va avoir les flows de base. Je peux en parler rapidement ici. Les flows de base, on en compte 5, OK? Il y a le flow...
Je t'arrêterai là-dessus, Tony. Peux-tu juste nous expliquer un petit peu? Parce que je pense qu'on peut faire des envois mailing, mais également, il peut y avoir des initiatives automatiques. Peux-tu peut-être juste situer un petit peu l'audience aujourd'hui sur ces deux volets-là, puis par la suite, on attaquera différents emails, différents flows qu'on intégrerait à travers ces types de clients-là?
Oui, certain. Parce que à trop travailler dans l'industrie, je me perds. Effectivement, on va retourner à la base. Dans le mailing, il existe grosso modo deux grosses catégories, on va dire, de stratégies qu'on peut faire. Il y a les envois qu'on appelle automatisés, donc une fondation automatisée qui inclut les flows. Et la deuxième catégorie, c'est vraiment les infolettes proprement dit qu'on entend, là, les fameuses infolettes qu'on reçoit chaque semaine de nos marques préférées. Et c'est là que on va venir ponctuellement envoyer, c'est pas automatisé souvent, on va s'adapter à l'actualité et tout et envoyer ça à la base pour amener le monde sur notre site. Donc ça, c'est la base. Et je vais expliquer un peu, au fond, les flows de base qu'on peut automatiser. Donc les flows de base incluent le flow de la welcome qui va accueillir le monde, le flow de cart abandonment, donc le monde qui vont sur le site mais qui abandonne un panier, on va les ramener sur le site. Un browse abandonment qui est quelqu'un qui regarde un produit qui est peut-être intéressé ou pas, mais on va quand même s'essayer de dire « Hey, on a vu que tu as regardé ça, serais-tu intéressé à revenir? » Les deux derniers, le upsell, qui est bien sûr, comme le nom le dit, donc on veut upseller la personne. Et finalement, le dernier qui est le win-back, qui est plus long terme, mais c'est quelqu'un qui achète, mais qui fait plus de signe de vie, qui achète plus, qui fait plus rien. On veut essayer de le ramener avec une dernière tentative. C'est les 5 flows de base qu'on conseille vraiment chez les clients quand ils commencent chez nous.
Donc, on a une première base automatisée avec ces 5 flows-là. Donc, je les répète, les flows de bienvenue, les flows de panier abandonné, les flows qu'on appelle en anglais browse abandonment, les flows de upsell et les flows de win-back. Et ça, Tony, juste pour être certain, là, on s'entend, on roule ça automatisé. Et est-ce que c'est la première étape que tu fais quand tu vas reprendre un compte? Est-ce que c'est vraiment ça le premier chantier de travail avant de s'attaquer peut-être à une refonte des infolettres?
C'est souvent une première, il faut l'analyser d'un pour voir si ça fonctionne et si c'est déjà présent chez le client. C'est de là qu'on peut décider est-ce que c'est plus rentable pour le client à court terme de refaire ces flows-là parce que, exemple, ils suivent pas leur branding, s'ils sont incohérents, s'ils fonctionnent juste pas à la base parce qu'on a des stats, bien sûr, en emailing, s'ils fonctionnent juste pas, on est mieux de les refaire puis s'assurer que tous les prochaines infolettes qu'on envoie, parce que faut pas l'oublier, les infolettes vont amener du trafic sur le site et le monde qui, exemple, va regarder les produits vont retomber dans ces flows-là. Donc, on a intérêt à avoir déjà une base qui est fonctionnelle et efficace pour ensuite renvoyer du trafic. Je sais pas si ça fait du sens, là.
Ouais, non, 100%, ça fait beaucoup de sens. Donc, on a ce volet automatisé-là, et tu l'as dit un petit peu plus tôt, il y a des envois un petit peu plus ponctuels. Ça va ressembler à quoi pour un commerce en ligne de ce type?
De ce type-là, qu'est-ce que... Puis, avant d'aller dans spécifiquement cela, c'est sûr qu'il faut, pour nos, les personnes qui nous écoutent, j'imagine, c'est pas toutes les entreprises qui sont déjà rendues à ce point-ci ou qui ont déjà du trafic et tout. Donc, on va différencier. Il y a trois types, on va dire des buckets de clients qu'on appelle. On a le fameux startup qui commence. Donc, déjà fait des ventes, un peu de trafic en ligne. Et ici, c'est il y a rien de fait, on va dire. Donc, la fondation est primordiale. Ici, on commence avec ça et on embarque à la prochaine étape. Prochaine étape, c'est... Ça marche déjà, c'est en pleine croissance et on veut venir accélérer la croissance ici. Donc, on va utiliser, pour répondre à ta question, on va utiliser un, qu'est-ce qu'on appelle un calendrier hebdomadaire. Donc, des envois vraiment déjà planifiés en avance. Parce que à chaque mois, on peut déjà prévoir qu'il va y avoir des événements, des dates fixes comme fête des pères, fête des mères, Noël, Pâques, etc., etc. C'est facile de se cadrer vers ces événements-là pour faire un calendrier hebdomadaire. Et le dernier, là, les géants de ce monde, ça, les flows sont déjà là, le calendrier est déjà décidé même des fois une année en avance. Là, qu'est-ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est on va travailler sur des flows plus avancés ou une segmentation plus avancée pour permettre d'aller chercher vraiment de façon micro des petits gains pour s'ajouter, tu sais, au gros du travail déjà fait.
Ok, c'est intéressant. Tony, bon, on parle, on s'entend, il y a des flows automatisés, il y a des envois ponctuels avec des calendriers, comme tu dis, des fêtes des mères, fêtes des pères, Saint-Valentin, peut-être lancement de produits pour des nouvelles saisons. Des entreprises après qui sont encore plus sophistiquées, on peut faire des flows d'un autre niveau par la suite. Donc ça, je comprends bien ça. Es-tu capable peut-être de situer notre audience aujourd'hui sur... les pourcentages de revenus. Donc, habituellement, les flows qu'on va intégrer pour un commerce en ligne de ce type-là, peut-être que tu as des chiffres à nous présenter aujourd'hui, peut-être que tu pourras en partager avec l'audience. Combien de revenus de manière automatique, habituellement, ce type de client-là va être capable de faire à chaque semaine avec ses efforts comme ça?
Oui, bien sûr. C'est sûr que... Étant donné la nature du commerce en ligne, on a des stats et il y a des benchmarks qui existent en ligne, des recherches et tout. Les lignes directrices que je donnerais ici, c'est généralement, on peut associer plus ou moins 50%, un potentiel de 50% des revenus total générés seulement par l'emailing. Donc, exemple, ton prix qui fait 100 000 sur un compte Shopify, exemple, on pourrait essayer de monter à caper jusqu'à 50 000 par mois, par année, peu importe, là, 50%. Et de ce 50%-là, on va chercher au moins 40 à 50% qu'on peut attribuer au flow. Donc, si, dans le cas où on va dire, là, on fait, OK, 50%, c'est bon, mais 90% est généré par les infolettes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 10% qui sont par les flows. Et donc, ça veut dire que les flows peuvent être optimisés pour remonter à 50% ou tendre vers le 50%. Donc, il y a un équilibre à chercher ici. Et c'est sûr que c'est pas des chiffres rigides ici, là. C'est flexible. Tu sais, on peut 40%, 30%. C'est quand même bon. C'est pas mauvais. Mais c'est un bon guideline à garder en tête, pour justement savoir où mettre ses efforts, là.
C'est intéressant, ça. Parce que c'est fou à quel point que nous, on reprend des clients des fois chez Pure Commerce et qu'on s'en va analyser que les clients n'ont pas déjà en place les flows automatiques, les calendriers déjà de construits. Il y a tellement d'argent quasiment, on dirait, qui est laissé sur la table. Et effectivement, tu vois, je regarde le compte en soi qu'on est en train de parler aujourd'hui. D'un mois à l'autre, ça varie entre 30 et 50%. Là, j'ai les chiffres devant moi, les revenus qu'ils vont faire avec leur compte Klaviyo. Donc, c'est quand même des chiffres à ne pas négliger, là. C'est 30 à 50%, bien entendu, selon les saisons. Des fois, pendant des périodes, ça va être un petit peu plus fort que d'autres. C'est beaucoup d'argent, là. C'est beaucoup d'argent. Donc, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui, bien entendu, ont des commerces en ligne, directeurs marketing de commerce en ligne, vous avez sûrement déjà intégré des stratégies mailing à votre entreprise. Vous avez sûrement déjà fait certains flows de base. On est d'accord. Mais ça peut être intéressant d'aller pousser la réflexion encore plus loin. Parce que 30 à 50% des revenus attribués par le mailing, ça peut être littéralement ce qui change la direction que vous prenez avec votre année financière pour votre entreprise et ce qui fait à la fin que vous atteignez vos objectifs ou pas. Donc ça, je pense que c'est important de garder ça en tête aujourd'hui. Tony, est-ce qu'il y aurait d'autres choses avant que je rentre dans d'autres petites questions là, qu'on se fait très souvent poser, que je suis convaincu que notre audience va vouloir entendre les réponses, nos réponses aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses quand même intéressantes qu'on pourrait dire par rapport à ce compte-là au niveau des stratégies, de te parler de flow automatisé, de te parler de calendrier éditorial? Qu'en est-il peut-être des segmentations? Qu'en est-il peut-être de la collecte de emails? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, certain. Oui, comme tu l'as dit, tout le monde connaît le mailing à la base. C'est à quoi on fait référence. Mais c'est pas toujours facile de mettre en place ça parce qu'il y a des petits détails que quand tu rentres dans le vif du sujet, c'est là que tu découvres ça avec l'expérience et tout. Puis j'ai vraiment amené deux trucs super importants, en fait, à notre audience ici. Le premier truc, c'est la segmentation de base. Donc, je vois souvent chez les clients qu'on rentre dans le compte puis on dit, ils envoient leurs infolettes systématiquement à tout le monde par défaut. Puis ça, c'est une erreur, malheureusement. 90% du monde font ça, puis ils savent pas, ils disent, ben, je veux maximiser mon revenu, le mailing sert à ça, fait que je vais m'envoyer les emails à tout le monde, pourquoi pas. Qu'est-ce qui arrive dans ça, c'est que surtout quand on commence, qu'on vient d'embarquer, exemple, dans un nouveau logiciel ou un nouveau domaine, peu importe, on veut s'assurer d'avoir une bonne réputation au niveau des email service providers qu'on appelle les Google, les Yahoo, les Outlook de ce monde. Eux vont détecter un nouveau arrivant dans leur système et ils vont dire, OK, cette personne envoie ses premiers emails, comment réagit le monde qui reçoit ces emails-là? Parce que faut le savoir, il y a plein de spammers dans le monde. Donc, eux, ils veulent détecter ce monde-là et tout de suite les couper parce qu'ils veulent pas polluer leur écosystème, bien sûr. Fait que nous, quand on commence, on doit s'assurer de faire ce qu'on appelle un warm-up sequence. Ici, c'est super important de bien faire ça, dans le sens, je vous explique rapidement comment faire. On veut envoyer à nos meilleurs clients. Donc, on a déjà une base, exemple, on commence sur Klaviyo. On veut s'assurer d'envoyer à nos meilleurs 20% pour s'assurer qu'ils ouvrent, qu'ils interagissent avec l'email, qu'ils cliquent et qu'ils achètent potentiellement. Et c'est là qu'on bâtit lentement notre réputation auprès de ces fournisseurs-là. Et là, ils disent, OK, cette personne-là, ça fait 5 emails qu'elle envoie. C'est pas des gros volumes, exemple, mais 90% du monde clique. C'est super. On la met tout de suite dans le vert et on va continuer à le monitorer. Mais au moins, on commence du bon pied. Tandis que le contraire, on envoie ça à tout le monde, on essaie de faire le plus de cash possible. Mais malheureusement, 10% seulement ouvre. Oui, vous faites plus de cash dans les 5 premiers envois. L'affaire, c'est que vous êtes dans le rouge en ce moment. Puis les prochains envois, vous allez tomber dans le junk mail, vous allez tomber dans les tables de promotion, etc. Donc, c'est une grosse erreur à ne pas faire quand on commence. Et par la suite, je peux embarquer dans la segmentation rapidement. On veut toujours s'assurer d'exclure le monde qui ouvre pas nos emails dans un certain nombre de temps. Ouvre, clique ou n'achète plus, exemple, 30 jours, 60 jours, 90 jours. Donc, on s'assure de limiter les dégâts, on va dire, du monde qui sont plus intéressés par nos produits, malheureusement. Donc, de cette façon-là, on maximise notre signal et on reste dans le bon côté là, chez les fournisseurs d'emails. Donc, ça, c'est des conseils que je donnerais.
Parfait. Mais c'est intéressant. Puis, garde, j'ai d'autres questions également pour toi aujourd'hui parce qu'on va profiter de ta présence, Tony.
Oui, vas-y.
Il y a beaucoup de gens, des fois, qui vont poser des questions du type, j'ai peur d'envoyer trop d'emails. Il y a un petit peu comme tu as dit, j'ai peur de tomber dans le spam. Est-ce que trop d'emails, c'est une mauvaise stratégie? Est-ce qu'il y a un nombre minimal d'emails à envoyer par semaine, par mois? Ça serait quoi ta réponse par rapport à ça, Tony?
Oui, c'est sûr qu'il faut se baser sur l'historique du compte. Donc, quelqu'un qui a jamais envoyé d'email, qu'est-ce que je conseille? C'est peut-être pour la fondation, mais de deux, c'est de commencer lentement. Donc, on peut commencer par exemple un par semaine, donc 4 par mois, juste voir comment ça se déroule. Et quand je parle de comment ça se déroule, c'est oui, le nombre d'argent régénéré, mais l'autre, les stats qu'on peut regarder, c'est le open rate ou le click rate. J'explique, il y a comme un ratio super intéressant ici à savoir, c'est que si on arrive à avoir environ 20 à 25% d'ouverture, okay, ou plus, c'est bon. Okay, Google et tout va nous considérer comme bon. Maintenant, si on atteint le 30-40%, c'est encore meilleur, oui, mais on maximise pas nos revenus, dans le sens qu'on pourrait atteindre plus de monde. Tantôt, tu sais, je t'ai parlé de segmentation ici. Si on vise tout le monde qui ont ouvert au moins un email dans les 30 derniers jours, exemple, puis que ce moment-là, on leur envoie un email, systématiquement, 90% de le monde ouvre, ben c'est peut-être signe qu'il faudrait peut-être ouvrir plus large, donc peut-être 60 jours. Et là, on va chercher plus de monde, mais qui sont potentiellement moins engagés, mais ils vont diminuer le taux d'ouverture à quelque chose de 20-25%, qui est un taux idéal qu'on veut atteindre. Donc, c'est une espèce de jonglage entre le ratio d'ouverture et la segmentation qu'on peut travailler. Et ça, on a les chiffres quasiment en temps réel. On envoie un email maximum, quoi, 24 heures. On a les chiffres, là. Et ça va augmenter encore après, mais de 1-2%. Fait qu'en 24 heures, on sait le chiffre, et là, on peut s'adapter avec la segmentation, 60 jours, 90 jours, etc., etc. Donc, il y a comme un ratio à suivre pour avoir un équilibre, on va dire.
Intéressant. Un autre point qui revient souvent est relié aux spécificités géographiques. Donc, Tony, tu le sais, beaucoup de nos clients chez Pure Commerce vont avoir des boutiques où est-ce qu'ils vont s'adresser en anglais à leurs clients et également vont s'adresser en français parce que leur clientèle est dans les deux langues. Comment qu'on réagit dans des cas comme ça au niveau de nos stratégies mailing?
Oui, sur ce point-là, je suis un peu jaloux, là, on va dire, là, des États-Unis, exemple, des Américains, dans le sens que eux, c'est anglais, c'est tout, on se casse pas la tête, tu sais. Ici, malheureusement, au Canada, plus spécifiquement au Québec, comme tu le dis, là, il y a beaucoup, c'est très bilinguiste, mais il y a du monde qui veulent absolument avoir leur affaire recevoir leur communication en français, et c'est correct. Donc, nous, notre approche, c'est, il y a comme trois niveaux, on va dire, là, pour s'assurer de bien identifier la personne. Le premier, c'est les pop-up. Donc, si on a un formulaire sur le site qui pop-up carrément, on sait déjà dans le langage que la personne va s'inscrire parce qu'on demande en anglais ou en français. Voulez-vous vous inscrire à l'infolettre, blablabla. On sait qu'elle est française, donc on peut facilement mettre un champ caché dans ce formulaire-là puis dire langue égale français. Donc ça, c'est facile, ça va de soi. La deuxième technique, c'est si quelqu'un remplit rien, comment qu'on peut savoir sa langue? La deuxième méthode que moi j'utilise, c'est le fameux view product. Donc, quelqu'un qui regarde un produit, je considère que ça regarde des produits pendant 2 heures de temps, des souliers, exemple, puis c'est tout en français, ben, elle doit parler français quelque part. Puis si elle regarde des produits en anglais, ben, elle va vouloir recevoir ses communications en anglais. Donc, c'est la deuxième méthode que j'utilise. Et le dernier, c'est une espèce d'attrape-tout, on va dire, là, c'est que je conseille à mes clients souvent, est-ce qu'ils sont corrects de considérer toute leur base une langue? Donc, si la majorité de leur clientèle est française, francophone, est-ce que c'est correct si on envoie toutes les communications par défaut en français jusqu'à temps que la personne se manifeste, donc soit remplit un pop-up puis qu'on sait qu'elle est anglophone, ou encore dit carrément « je veux changer de langue en anglais », ok, on la switch. Fait que de cette façon-là, on s'adresse à tout le monde parce qu'autrement, si on fait juste viser anglais ou français, le monde qui sont pas identifiés, on les perd, on leur parle jamais. Et on perd de l'argent en bowling. Donc, c'est comme 3 méthodes pour vraiment s'assurer de mieux répondre à plus de monde et à maximiser vos revenus en bowling. J'espère que ça fait du sens.
Ça fait beaucoup de sens. Ça fait beaucoup de sens. Nous-mêmes qui ont des boutiques en ligne, en plus de celles qu'on gère pour nos clients, on va garder ça. On va garder ça en note. On va continuer plutôt même à faire ces bonnes pratiques pour nos différents comptes. Et Tony, avant de te laisser filer, quel conseil tu donnerais à une boutique en ligne aujourd'hui qui veut se lancer dans l'emailing, qui pense, qui a peut-être fait certaines initiatives, mais qui veut devenir vraiment sophistiqué? Quels seraient tes conseils?
Oui, mais c'est quelqu'un qui a déjà commencé dans le mailing. Une chose, je pense, c'est une histoire que moi, personnellement, quand je l'ai entendue, m'a marqué. Fait que je vous la raconte ici. Il faut considérer le mailing comme un célibataire qui sort dans un bar. OK? La première fois que tu approches quelqu'un, quand rencontres quelqu'un, tu peux plus lui demander « veux-tu me marier tout de suite? » C'est complètement fou. Puis je suis sûr qu'il y en a déjà qui l'ont essayé parce qu'ils ont peut-être trop bu et tout. Mais restons dans dans le réalisme et tout ici. On rencontre quelqu'un pour la première fois par mailing et tout. Tu peux pas lui demander « achète-moi, je sais pas, mon logiciel à 2000$ par mois, s'il te plaît, achète. » Puis on le spam d'email à l'infini. Ça marche pas comme ça. L'email, c'est un peu... c'est très relationnel. C'est très humain. Donc, on retourne au célibataire dans le bar qui rencontre quelqu'un. Tu veux commencer à donner confiance à la personne, à apprendre à la connaître. Donc, première question qu'on peut lui demander, c'est « veux-tu qu'on prenne un verre ensemble? Veux-tu qu'on prenne un café? Veux-tu sortir prochainement dans un resto? » Et on fait évoluer la relation tout comme on va faire dans le mailing. Les flows de base que je parlais tantôt, le flow de bienvenue, ça sert un peu à ça. Laisse-les apprendre à te connaître, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ce que tu fais. Et lentement, ils vont te faire confiance et c'est là qu'ils vont finir par acheter. Et même si ils disent non la première fois, ça veut pas dire qu'ils disent non, ils sont juste pas sûrs. Donc, il faut utiliser les infos-là par la suite pour relancer la personne. « Hey, tu sais quoi, je suis gentil. Veux-tu prendre un café? » Tu redemandes la question, puis à un moment donné, puis c'est sûr, ça sera pas 100% du monde qui vont finir par acheter, on s'entend. Tout comme dans un bar, il va avoir un taux de rejet, on s'entend. Mais ici, le but, c'est qu'il faut comprendre que c'est un pourcentage des réussites, mais qu'il faut prendre ça lentement et progressivement, et non sauter là à la conversion, puis moi, je vais envoyer un email, puis je vais faire 1 million tout de suite. Ça marche pas comme ça, dans la vraie vie et comme dans le mailing. Donc, j'espère que c'est une belle métaphore ici. Puis moi, ça m'a marqué quand je l'ai entendu. Fait que je voulais raconter aujourd'hui.
Fantastique. Ben, Tony, je confirme, c'est une belle métaphore. Merci de ton temps. J'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui vont pouvoir mettre en pratique certains trucs et certaines techniques qu'on a discutées. Donc, merci beaucoup de ton temps. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commerce Élite.